franceinter.fr.
Il est 8h10.
Le 7-9 sur France Inter.
Votre invité Léa Salamé est historien, écrivain, éditeur. Il est l'ami de Jérôme Cahuzac. Il a écrit sur l'affaire qui le concerne et qui lui vaut un procès aujourd'hui, Dissimulation.
Oui, chez Fayard. Bonjour Jean-Luc Barré.
Bonjour Léa Salamé.
Vous êtes, Patrick l'a dit, biographe notamment de Jacques Chirac et de François Mauriac. Mais là, avec l'affaire Cahuzac, on est chez Balzac.
Oui, c'est un peu la chute de Rastignac d'une certaine manière, c'est-à-dire alors on me présente comme l'ami de Jérôme Cahuzac, je voudrais surtout dire que j'étais son adversaire politique à l'origine, mais ça me donnait une position finalement qui me permettait de mieux comprendre peut-être que je l'aurais fait à travers une simple enquête, ce qu'était ce personnage, cette histoire dont je rappelle qu'elle a pour origine aussi une certaine ville qui est celle de Villeneuve-sur-Lot précisément.
Qu'est-ce qui vous a intéressé dans l'affaire Cahuzac? Je disais Balzac, qu'est-ce qui dans cette affaire-là est romanesque?
Il y a tout, il y a à la fois le huis clos provincial, une petite ville, il y a le rapport aux femmes, il y a le rapport à l'argent, il y a le pouvoir, il y a l'ambition, il y a tous les ingrédients finalement d'un vrai roman balzacien.
Jérôme Cahuzac affronte ses juges aujourd'hui, le procès s'ouvre 3 ans après les mensonges à l'Assemblée nationale, dans les médias. Dans quel état d'esprit il est aujourd'hui ?
Écoutez, je dirais que c'est un homme qui vient de traverser trois années extrêmement difficiles, puisqu'il s'est écoulé 3 années depuis les aveux. Je dirais que c'est un homme aujourd'hui brisé, mais digne, prêt à affronter naturellement cette épreuve judiciaire, mais qui a traversé quelque chose de très difficile, qui consistait quand même à devenir du jour au lendemain, de passer du camp des hommes qui étaient portés par une ambition et une ascension à celui des déchus, puisqu'au fond c'est un homme déchu, en tout cas sur le plan politique.
On dit qu'il est seul, qu'il est brisé, vous dites qu'il a du mal à trouver du travail depuis 3 ans, personne ne veut l'embaucher ?
Oui, parce que d'une certaine manière, tant que cette affaire n'est pas réglée, je dirais du point de vue judiciaire, il reste un suspect. Dès qu'il trouve un emploi, une mission, immédiatement, la brigade financière arrive pour vérifier exactement le contenu de son contrat. Donc il est un peu traqué. En même temps, il est conscient de sa faute. La question n'est pas là. Je crois qu'il ressent difficilement, il a le sentiment d'être aussi une sorte de, non seulement de coupable, mais de bouc émissaire quelque part, et d'être l'homme aujourd'hui qui symbolise finalement toutes les dérives d'une classe politique.
Votre livre, Dissimulation, c'est une forme de réhabilitation. Patrick Cohen disait que vous êtes ami aujourd'hui. C'est vrai que vous avez été adversaire politique à Villeneuve-sur-Lot, puis il est devenu votre confident, et vous le citez dans ce livre-là, vous lui avez parlé pour ce livre-là. Est-ce que c'est une réhabilitation de
Cahuzac ? Non, c'est pas une tentative de réhabilitation. Je veux dire, celui qui pourra un jour expliquer profondément les choses, c'est lui. Moi, j'ai simplement voulu essayer de comprendre. Je suis dans une position d'écrivain, d'un homme qui n'était pas là pour juger. C'est pas à moi de juger, c'est à ceux qui aujourd'hui vont se réunir de le faire. Moi, je voulais comprendre une affaire. Je savais qu'il y avait un engrenage derrière cette affaire qu'on ne voyait pas et qu'on avait dissimulé, qu'il y avait une histoire de cassette quand même étrange pendant 12 ans qui circule. Il y a le rôle de sa femme, qui n'est pas négligeable dans cette affaire. Il y a une sorte d'omerta politique qui veut qu'aujourd'hui on nous explique qu'on ne savait rien pendant toutes ces années, que François Hollande ne savait rien, que la droite ne savait rien. Beaucoup de gens savaient.
On va reprendre point par point. Beaucoup de gens savaient. D'abord, c'est ce que vous dites. Vous le citez, Cahuzac. J'ai menti pour sauver ma vie, mais aussi par devoir, par nécessité politique. C'était quoi la nécessité politique de mentir ?
La nécessité politique, en tout cas, telle qu'il l'a ressentie et telle qu'il la présente, c'est de dire j'ai vu François Hollande à un certain moment, le 5 décembre dans la matinée. Il ne m'a pas posé la question les yeux dans les yeux. Et il m'a demandé simplement, bon, est-ce que c'est des conneries ? Il a dit oui, c'est des conneries. Et bien ensuite, il m'a dit, j'ai besoin de toi. Nous sommes dans une époque où, à la fin de l'année 2012, où Jérôme Cahuzac, ministre du budget, joue un rôle central dans la défense des budgets et des lois de finances. Et donc, il s'est senti investi d'une mission plus importante encore que la nécessité de s'expliquer. C'est peut-être une illusion, après tout, qu'a eu Jérôme Cahuzac, mais ça complique un petit peu plus le problème. J'ajoute quand même une chose très importante, c'est que, à ce moment-là, François Hollande bénéficie de 2 interlocuteurs qui sont parfaitement informés du dossier, c'est Edwy Plenel, avec lequel il a écrit un livre, et Jean-Pierre Mignard, qui est un de ses amis.
C'est-à-dire, ce que vous nous dites, c'est qu'il savait François Hollande, c'est ça que vous dites ?
En tout cas, il y a toute raison de penser qu'il ne pouvait pas l'ignorer.
Vous avez des preuves ?
Les preuves, non, il n'y a pas de preuves dans le domaine. Simplement le fait d'avoir auprès de soi des gens qui vous disent, qui communiquent avec vous. Edwy Plenel reconnaît qu'il lui envoie des émissaires régulièrement très tôt, très vite. Et puis Jean-Pierre Mignard qui tout de même l'informe rapidement aussi de la réalité du dossier.
Pour vous, à l'origine, l'ouverture du compte en Suisse dans les années 90, ça devait servir à préparer la candidature de Michel Rocard. Puisque Cahuzac connaît Rocard parce qu'il est au ministère, il est au cabinet de Claude Évin, qui est ministre sous Rocard. à l'origine, il constitue ce compte-là pour cela. Écoutez, c'est ce que vous avancez.
Il y a des éléments troublants. Moi, je voudrais simplement poser une question. J'observe que les rocardiens se taisent, d'ailleurs, depuis qu'on dit cela. Mais pourquoi, en 1992, au moment où Jérôme Cahuzac ouvre son compte, Michel Rocard demande à Jérôme Cahuzac de l'accompagner dans des rencontres successives avec des responsables de firmes pharmaceutiques? C'est sans doute pas pour tester des médicaments. J'imagine que ça doit être aussi pour d'autres raisons, quand on sait que ces firmes étaient des pourvoyeurs de pourvoyeuses de financement de partis politiques. Autre élément troublant, pourquoi pendant 10 ans, Jérôme Cahuzac n'a à aucun moment utilisé ce compte jusqu'en 2003, autrement dit. Il est clair qu'il joue un rôle précis dans la campagne.
En 2003, c'est un peu tard pour Rocard, si vous voulez.
Oui, mais il se trouve, en effet, mais au moment où le compte est ouvert, Michel Rocard est candidat à la présidence. Il va se retirer en 1994. En effet, cet argent reste là, ce compte reste là. La faute, évidemment, de Jérôme Cahuzac, c'est de ne pas l'avoir fermé. Mais il ne l'utilise pas en même temps. Moi, vous savez, dans cette affaire-là, j'ai pas de preuve.
Donc vous accréditez l'idée du trésor de guerre dont parlait François Mitterrand.
Écoutez, voilà, merci de le dire. Ce n'est pas moi qui parle de trésor de guerre. C'est François Mitterrand qui, le premier, a pointé du doigt le fait qu'il pouvait y avoir un trésor de guerre au cabinet de Claude Évin.
C'est aussi, vous l'avez dit, une histoire d'amour, de vengeance. Au procès, il va retrouver son ex-femme, Patricia. Vous le racontez dans ce livre. Elle lui dit « Tu finiras seule et en prison ». Vous vous affirmez que sans le divorce, il n'y aurait pas eu d'affaire Cahuzac.
C'est elle qui, d'une certaine manière, a mis en mouvement toute une série de données qui étaient là, qui étaient en gestation depuis très longtemps. L'histoire du compte, cette cassette attendait depuis 10 ans de servir. Il y avait un rapport d'un inspecteur du fisc qui n'avait jamais été utilisé. Elle envoie sur place à Villeneuve-sur-Lot un détective pour inspecter, enfin pour traquer d'une certaine manière la vie privée de son mari. Et c'est elle qui met en relation tous ces gens qui attendaient d'une certaine manière de faire quelque chose des armes qu'ils avaient.
Elle conteste cela.
Bah écoutez, elle avoue quand même un certain nombre de choses devant les juges. En tout cas, qui a donné à Mediapart, qui a permis à Mediapart d'accéder aux fichiers de la clientèle Cahuzac.
Vous affirmez que c'est elle.
Qui a fait que... Edwige Plenel a dit « J'ai eu des sources très proches dans l'entourage familial. Je ne vois pas qui d'autre qu'elle. »
Est-ce que, vous avez, quand vous êtes son adversaire politique à Villeneuve-sur-Lot, vous percevez dès le début les ambiguïtés, les zones d'ombre de l'homme? Est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche chez Cahuzac à sa grande époque?
Oui, c'est sans doute aussi pour ça que j'ai fait ce livre, parce que ce personnage m'intrigue depuis l'origine, depuis 1997. Voilà un personnage qui a tout pour réussir, qui réussit tout d'ailleurs, mais qui en même temps est tellement construit, il y a une telle cuirasse, il y a une telle certitude.
Contrôle.
Il y a un tel contrôle que assez rapidement j'ai perçu des fragilités chez lui, des failles. Et puis notamment, il y a quelque chose qui m'a intrigué, c'est ce rapport à l'argent. Parce que le fait, par exemple, de faire venir à Villeneuve-sur-Lot des laboratoires pharmaceutiques pour soutenir des clubs sportifs, c'était assez original.
Le livre s'appelle « Dissimulation avec un S » chez Fayard. Passionnant, l'affaire Cahuzac, décryptée par Jean-Luc Barré. Merci à vous et belle journée.
Merci.